Jeudi 27 avril 2017, Emmanuel Macron, alors candidat qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, tape dans le ballon avec de jeunes habitants d'un quartier de Sarcelles, en banlieue parisienne. Une scène qui fait le bonheur des caméras, de son équipe de communication et sans doute des personnes présentes autour, mais une scène qui doit nous interroger sur les représentations que l'on se fait de ceux qu'on appelle communément les jeunes de banlieue. Le sport est dans cette séquence considéré comme un divertissement et une rencontre populaire. Un aspect qui cache sans doute d'autres réalités. Celle du sport comme outil d'intégration à la société ou bien de repli communautaire, de socialisation au sein d'un collectif ou d'ambition personnelle et professionnelle, des pratiques pour cultiver le respect mais aussi pour entretenir des rapports de domination entre des individus déjà marginalisés par leur origine ethnique ou géographique. Alors un enfant qui grandit dans une tour est-il forcément un Zidane en puissance? Réponse tout de suite dans Chercheurs en ville. Bonjour, merci d'être à l'écoute de Canal B pour ce nouveau numéro de Chercheurs en ville avec aujourd'hui notre invité Hakim Wallassi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sociologie et vous répondrez aux questions comme chaque mois de Xavier de Bantry. Bonjour Xavier.
Bonjour Renan, bonjour à tous et à toutes.
Et Christian Lebar, bonjour Christian.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Xavier, c'est à vous.
Merci Renan. Ben, vous l'avez dit dans votre lancement, le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un petit peu au carrefour de pas mal de problématiques. Le sport, la ville et les quartiers, et un peu la politique aussi, ou en tout cas la représentation que l'on se fait des sports. Et pas n'importe lesquels, Hakim Wallassi. Vous vous êtes interrogé à ce que vous avez appelé les sports virils. Alors tout de suite, on y a un imaginaire là qui est convoqué. On imagine des gros baraqués qui font de la musculation, qui se battent, qui font du fight, comme on dit. Et on dit notamment à New York, puisque vous êtes, on l'a rappelé, vous êtes sociologue, chercheur, vous avez enquêté et observé les pratiques sportives des deux côtés de l'Atlantique, à Paris, en région parisienne, que vous connaissez bien, mais aussi à New York, où vous avez vécu et travaillé. Et alors, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça dont nous allons parler ensemble durant cette heure de Chercheurs en ville avec vous, c'est de voir peut-être quelles sont les similitudes, mais aussi les différences de ces sports virils. On va comprendre, on va parler de boxe thaï, on va parler de musculation avec vous, de formes de socialisation aussi dans la ville, de groupes d'hommes souvent, qui se retrouvent, qui se comparent, qui se combattent. Voilà, c'est ça le sujet qui nous réunit aujourd'hui. J'ai envie de vous demander tout simplement, pour commencer, pourquoi on peut s'intéresser, quand on est sociologue, à ces questions-là?
Alors, merci pour votre très bonne question. Alors en fait, moi, le sport m'a semblé être en fait une très bonne entrée justement pour étudier un peu ce que vous avez évoqué en introduction, les formes d'inégalité urbaine, le rapport au corps, le rapport notamment à la masculinité, à la virilité. Alors ce que j'appelle justement sport viril, j'ai regroupé un peu donc trois catégories de sports différentes en une seule, donc sport viril, notamment parce que justement ils engageaient un rapport au corps et à la masculinité assez similaire. Alors quand la musculation, la boxe thaï et la boxe anglaise est pratiquée par des jeunes des classes populaires urbaines appartenant majoritairement aux minorités dites ethniques ou ethno-raciales, il y a quand même des points communs dans justement le rapport qu'ils engagent au corps, aux valeurs de virilité.
On ne fait pas ces sports-là par hasard, c'est ce que vous
voilà,
nous dites.
Exactement, tout à fait. Alors, il y a tout un champ de la sociologie du sport qui s'est intéressé justement à la manière dont on pouvait expliquer les déterminants sociaux et économiques qui permettent de comprendre l'investissement d'acteurs sociaux dans des pratiques sportives spécifiques. Alors il y a un risque justement à essentialiser les déterminants qui expliqueraient que telle catégorie de la population pratique tel ou tel sport, mais il y a quand même des des éléments sociaux et économiques qui permettent de comprendre pourquoi tel ou tel groupe social, par exemple les jeunes de quartier, populaires, pratiquent tel ou tel sport.
Et donc, pourquoi c'est ça qu'on a envie de savoir grâce à vous et grâce aux études que vous avez pu mener. Il y a effectivement une attirance particulière chez ces jeunes des quartiers pour ce type de pratique sportive.
Oui, tout à fait. Alors moi, je me suis à la fois évidemment appuyé sur la littérature existante sur ces sujets-là et en même temps sur, j'espère, une enquête empirique que j'espère solide. Mais donc pour moi, en fait, ce que je peux dire, c'est que de manière assez simple, mais je peux identifier plusieurs facteurs qui pourraient expliquer pourquoi des jeunes de quartiers populaires, plutôt ici les minorités, sont attirés par des sports de combat et de force. Alors, du coup, là, ça renvoie à ce qu'on appelle la sociologie des dispositions. Ça, c'était un aspect de mon livre. J'en parle un petit peu. Il me semble que ces jeunes, en fait...
On rappelle le titre de votre livre, d'ailleurs, hein, « Se faire respecter, ethnographie des sports virils dans des quartiers populaires en France et aux États-Unis », c'est paru aux excellentes presses universitaires de Rennes en janvier 2017.
Oui, tout à fait. Donc, alors, il y a il me semble un facteur important, c'est que ces jeunes, ont des dispositions, populaires, leur permettent, en fait, de s'intéresser à un ensemble de pratiques culturelles dans lesquelles j'inclus justement le sport. Alors, un élément important de ces dispositions, c'est, il me semble, un attrait pour les valeurs de virilité, l'affrontement, alors pas forcément physique, justement, ça peut être un affrontement verbal, à coup de vanne, à coup d'insultes quand ça dérape un peu, mais voilà, donc il y a peut-être alors des dispositions pour alors ça c'est un peu plus compliqué, mais une sorte d'insoumission à l'autorité. Et voilà, bon, c'est tout, c'est tout.
Et en même temps, un peu canalisé avec des règles du jeu, des principes qui existent dans la pratique de ces disciplines sportives.
Tout à fait, exactement.
Patrice Carteron est un enfant de Grigny, une ville de banlieue de triste réputation à 25 km de Paris. 27 000 habitants, 20% de chômeurs, Grigny est à la fois la ville la plus jeune et la plus pauvre du département de l'Essonne. C'est ici, dans le quartier de la Grande Borne, que Patrice Carteron a donné ses premiers coups de poing dans le club de boxe thaï de la cité. Aujourd'hui, il est champion du monde. 2 mètres, 125 kilos, 55 victoires dont 40 par KO, Patrice Carteron est un poids lourd qui compte et une voix qui porte dans les banlieues.
Alors Christian Lebart de la Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne vous écoute attentivement depuis le début de cette émission. Je sais qu'il a des tas de questions à vous poser et notamment certainement sur la méthodologie que vous avez engagée.
Oui, le sous-titre de votre très beau livre, c'est Ethnographie des sports virils. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez fait pour pénétrer des univers qui, sans être clandestins ou fermés, sont quand même des univers assez typés, où on devine assez vite qu'il y a un entre-soi relativement important. Est-ce qu'il faut pratiquer les sports pour s'y faire accepter? Est-ce qu'on peut être petite souris? Est-ce qu'on peut... Il y a beaucoup d'entretiens dans votre livre. Est-ce qu'on peut comme ça poser des questions sans avoir au préalable donné des gages vis-à-vis du milieu enquêté, etc. Comment vous avez fait, en plus, aux États-Unis et en France?
Oui. Alors, peut-être commencer justement par les États-Unis. Bon, je suis arrivé aux États-Unis, j'étais étudiant en thèse de sociologie.
On rappelle le contexte historique, c'était au début des années 2000
Alors, je suis arrivé à New York en 2005, et du coup, j'ai commencé un an après l'enquête en elle-même, donc 2006. Voilà. J'étais étudiant, étudiant français, mais bon, mon apparence physique fait que les gens n'arrivent pas trop à me situer. Alors à la fois de manière générale à New York et puis sur les terrains, les quartiers populaires, à forte population, on va dire afro-américaine, les gens m'identifiaient plutôt à un latino, quoi, un portoricain précisément. Donc ça, en fait, c'est un peu paradoxal.
Oui, on confirme en studio, ça peut le faire aussi. Ouais.
À la fois, j'étais pas un afro-américain de fait, et en même temps, j'étais pas blanc. De leur point de vue, et ce qui peut à la fois poser problème et puis à la fois faciliter l'entrée sur le terrain, comme on dit.
Ça a été une ressource.
Voilà, exactement, je pense que c'était une ressource. Je me suis présenté en tant qu'étudiant, j'habitais dans le quartier quand même. Donc les personnes qui ont su que je faisais dans les salles de sport, par exemple à New York, qui ont su que je faisais l'enquête, je m'étais présenté.
Vous n'avanciez pas complètement masqué.
Non,
donc...
pas pour tout le monde, mais bon, j'ai pas pu me présenter auprès de tous les pratiquants de sport. Donc ça s'est plutôt bien passé par rapport à ça. Alors après, c'est vrai que dans la méthodologie classique de l'ethnographie, le mieux, c'est de s'impliquer dans la pratique, de s'immerger dans le milieu. C'est ce que j'ai essayé de faire. Donc j'ai pratiqué le sport. Donc j'ai donné des gages du coup de virilité ou de voilà de j'ai payé un peu de ma personne mais bon voilà
c'est c'était pas, la muscu c'était la boxe anglaise
alors plutôt la musculation la boxe j'avais déjà entamé mon terrain musculation bon boxe anglaise ça commençait à faire beaucoup donc j'ai le club de boxe anglaise j'ai plutôt observé et fait des entretiens avec les boxeurs et puis la salle de musculation j'y allais quasiment tous les jours j'observais bon
bien accepté salle, au départ
il y a toujours des regards un peu interrogateurs c'est sûr bon alors il y a aussi, alors il y a plusieurs choses. Il y a à la fois l'espace du quartier, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était les salles de sport dans le quartier. Donc, dans l'espace du sport, de la salle de sport, ça se passe assez bien en vérité. Dans le quartier, c'est plus compliqué. J'ai pas envie de justement reproduire des stéréotypes sur les quartiers populaires afro-américains, mais c'est pas non plus évident de naviguer dans ces quartiers quand on n'est pas afro-américain ou quand on n'est pas du quartier.
Il fallait produire des gages auprès de certains des leaders de cette communauté-là.
Oui, tout à fait. Alors déjà rien que dans la manière de marcher. Bon, par exemple, j'avais mon voisin qui m'a dit de voilà, fais vraiment attention à la manière dont tu marches. Enfin voilà, essaye d'avoir une démarche assurée qui montre que t'as confiance, que t'as pas peur. Sinon, tu vas apparaître comme une proie, quoi. Donc, ça c'est un exemple. Donc non, je faisais quand même attention à la manière dont je marchais, etc. Mais alors, je vais peut-être donner une anecdote rapide. C'est intéressant justement à témoin de ces difficultés à entrer sur le terrain, puis en même temps à peut-être justement les manières de s'en sortir si on a les ressources nécessaires. Bon, c'était le cas pour moi, mais. Alors j'étais donc étudiant à New York, donc je revenais un soir de ma fac qui se situait à Manhattan. Alors je garde un peu anonyme les lieux d'enquête, c'est un peu
la règle professionnelle hein, discipline.
Oui, alors donc je vais de Manhattan, qui est un quartier plutôt bourgeois, je mets des guillemets, voilà, bon, et je rentre dans le quartier où j'habite et où j'enquête. Et il était tard le soir, donc je prends l'un des derniers métros, il faisait nuit. Et donc, je m'étais décidé de m'arrêter. J'avais le choix dans la station de métro à choisir justement pour m'arrêter. Là, j'ai décidé de choisir une station de métro qui me permettait de marcher jusqu'à chez moi la nuit dans le quartier. Je voulais voir un peu ce qui se passait à cette heure-là. Bon, je faisais souvent ça. Et là, ce soir, bon, voilà, je descends cette station de métro. Alors, il y a le métro aérien comme ça qui passe à New York. Voilà, c'est typique. Il y avait des cités à côté. Et mon instinct m'a tout de suite.
Il y a une petite lumière qui s'est allumée,
exactement.
Là, c'est ça ?
J'ai dit, ah tiens, c'est bizarre, bon, j'ai senti quelque chose. Et je voyais un groupe de jeunes, bon, il se trouve qu'ils étaient afro-américains, mais c'est un quartier vraiment à majorité afro-américaine. Donc ils étaient assis voilà, contre des voitures, il y avait de la musique très forte, du hip-hop, il y avait de l'alcool, ils buvaient de l'alcool, etc. Et je dis, ah bon, il n'y a pas trop de monde, il y a quelque chose, je ne sens pas trop, quoi. Mais je dis, bon, faut que... Je fasse comme
si des marches assurées,
je
marche, etc.
Voilà, hein. Donc j'applique les conseils de mon voisin du coup. J'avance, etc. Alors je vois des jeunes qui commencent à se lever. Ils étaient assis contre les voitures. Certains ils se lèvent, ils viennent vers moi, etc.
Ils font tous 2 mètres à peu près.
Ils sont imposants parce qu'ils étaient surtout en nombre. En fait, c'était plus ça. Mais bon, je veux pas non plus fanfaronner, mais j'étais pas non plus effrayé. Mais bon, je me dis il y a quand même quelque chose qui voilà. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite dans l'anecdote. Et puis voilà, en fait. Bon, ils ont essayé de me chercher un peu des noises, et en fait, ce que j'ai compris après, donc ils sont venus vers moi en anglais, ils m'ont dit hey, si. Alors, hey, c'est l'apostrophe, et si, c'est la lettre C, quoi. Alors, j'ai mis du temps à comprendre, et après, bon, j'ai recoupé des informations avec d'autres informateurs, comme on dit dans le quartier. Et en fait, alors, j'avais un blue jean, comme disent les Américains, un jean bleu, j'avais un pull à capuche bleu, et voilà, bon, et en gros, j'étais habillé en bleu. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que. J'ai cru comprendre, c'est mon interprétation, je pense qu'elle est valable. J'étais sur le territoire des Bloods, un gang qui s'appelle les Bloods, donc le sang en anglais, et leur couleur c'est le rouge. Et moi j'étais à identifier à un Creep, les gangs des Creeps.
Dont la lettre C.
Voilà, exactement, la lettre C, et la couleur est le bleu. Alors, je sais pas s'ils m'ont vraiment associé vraiment.
Et ça aurait pu mal se terminer parce qu'il y avait une rivalité entre ces deux gangs et.
Tout à fait. Et donc voilà, bon, ça s'est bien passé. J'ai réussi à désamorcer justement par rapport, je pense, à certaines ressources dans la manière de parler, de se présenter. Et puis il y avait un policier un bloc après, un pâté de maison après, qui était là en train de mettre une contravention. Donc il aurait pu venir au secours au cas où. Mais c'est pour dire voilà,
c'est pas évident, cette représentation. Pas évident. Les projections aussi qu'il peut y avoir et les codes sociaux, les codes de comportement dans ce monde-là.
Christian.
Est-ce que ça veut dire que dans ce contexte assez particulier, la masculinité, la virilité, à la fois ce qui autorise une démarche assuré, comme vous dites, mais aussi ce qui permet très concrètement de rendre les coups, est une ressource au-delà de la salle de musculation
Oui, je pense. Alors l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple dans lequel j'étais impliqué, mais alors même si je compare par exemple au quartier parisien dans lesquels j'ai enquêté, en fait, alors dans les deux cas, à la fois les sports de force, on va dire, donc la musculation, mais, et puis les sports de combat, donc le fait de développer des capacités à affronter quelqu'un, etc., et justement à maîtriser sa violence, etc., ça donne lieu alors à la fois à des hiérarchies à l'intérieur du club, mais aussi finalement à l'extérieur du club, dans le quartier. Donc on est respecté parce qu'on fait de la boxe thaï ou parce que voilà, on a une musculature assez, assez imposante. Alors, et il n'y a pas que ça en fait, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est qu'à la fois la hiérarchie à l'intérieur du club, elle dépend bon, évidemment de compétences sportives donc, qui sont acquises à l'intérieur du club, mais cette hiérarchie elle dépend aussi des relations sociales qu'on a à l'extérieur du club. Donc connaître tel ou tel mec de la cité d'en face, avoir tel ou tel réseau d'interconnaissances, du coup aux États-Unis être affilié à tel ou tel gang, du coup ça c'est indissociable finalement de compétences sportives. Les deux s'imbriquent pour créer une hiérarchie à l'intérieur du sport, mais qui est aussi du coup qui vaut à l'extérieur dans le quartier. Et du coup, alors juste un dernier point pour finir, pour vraiment répondre plus concrètement à la question, c'est que alors pas tous évidemment, mais certains de ces sportifs en fait utilisent les compétences qu'ils ont acquises dans le club de sport qui est lié à la masculinité bien sûr, et peuvent reconvertir ces ressources sous forme d'emploi par exemple. Donc j'ai rencontré des sportifs, boxeurs, etc., qui étaient par exemple vigiles ou videurs de boîtes de nuit, mais c'est des emplois ou alors à la marge du marché de l'emploi légal, formel.
Le Grand Paris du ballon ovale se trouve sûrement dans ces barres d'immeubles de la région parisienne. Match au sommet de Fédéral 1. Massy en blanc affronte Bobigny en noir, la banlieue sud face à la banlieue nord. Un derby francilien entre deux clubs formateurs aux portes du professionnalisme, devenu en quelques années le véritable vivier du rugby tricolore.
Hakim Olassi, vous venez de le rappeler, vos travaux de sociologue vous ont amené des deux côtés de l'Atlantique. Vous venez d'évoquer avec beaucoup de précision la manière dont s'est déroulé votre travail à New York. J'ai envie de vous demander, et la France, quels enseignements vous en faites? Est-ce qu'il y a des singularités que vous avez pu observer entre le modèle français et un modèle américain, ou en tout cas new-yorkais, parce que New York n'est pas l'Amérique, et aussi quels sont les points communs et quels enseignements, puisque vous avez dans vos travaux rapproché volontairement ces deux univers, qu'est-ce qu'il en sort?
Oui. Alors, il me semblait intéressant justement de comparer les jeunesses populaires à la fois à New York, ou alors en France, mais à New York et à Paris. Et en fait, alors, les similarités qu'on observe, donc c'est une similarité dans la position, dans la structure sociale, si vous voulez, de manière générale, et le fait, comme je l'ai dit, qu'ils appartiennent dans ces clubs, la plupart de ces jeunes, aux minorités ethno-raciales. Ce qui a été pour moi intéressant, c'est de voir les différences. Bon, alors beaucoup de points communs, j'insiste peut-être plus sur les différences, c'est les clubs de boxe, les deux clubs aux États-Unis, en fait, ont plutôt insisté dans la socialisation de ces jeunes, ont plutôt insisté sur. Alors, ça m'avait frappé l'idée, mais ils le font concrètement, c'est pas qu'une idée abstraite, c'est l'idée de, si vous voulez, de faire de ces jeunes des quartiers populaires qui viennent s'entraîner dans ces clubs, d'en faire des leaders. C'était vraiment cette chose assez frappante, donc de les socialiser à travers le sport à devenir des leaders.
Voilà, une fabrication des élites, pour parler un petit
alors,
peu comme vous.
Oui, je pense, oui, une forme. Alors, en tout cas, c'est ce à quoi aspirent les entraîneurs dans ce ghetto new-yorkais. C'est finalement essayer de fabriquer des petites élites à travers le sport qui pourraient à la fois du coup s'en sortir, réussir, et puis même, alors là c'est le rêve américain, pourquoi pas devenir millionnaire à travers la boxe. Alors du coup, particulièrement la boxe anglaise, donc c'est que les points. C'est perçu dans ces quartiers, dans ce que j'ai pu observer, c'est vraiment perçu comme un ascenseur social ou un vecteur vers la réussite et vers le rêve américain.
Il y a des exemples, il y a, j'imagine, des icônes aussi que l'on vénère, que l'on cite régulièrement dans cet ascenseur-là. Évidemment.
Mike Tyson, en plus, alors là, c'est typique, c'est quelqu'un qui vient d'un ghetto, c'est un afro-américain qui a été élevé que par sa mère. En plus, c'est quelque chose que j'ai observé, c'est quelque chose d'assez typique dans les
familles monoparentales.
Exactement. Famille monoparentale, qui était plutôt impliquée dans une carrière déviante, comme on dit, et qui s'est pas du jour au lendemain, parce qu'il a fallu justement qu'on se construise en tant que boxeur, qui s'est retrouvé voilà, au top. Voilà, exactement, il est devenu millionnaire. Quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à laquelle aspirent les boxeurs que j'ai rencontrés, mais surtout les Américains.
Christian, alors, le Martin.
Quand on vous écoute, on regrette vraiment que Tocqueville ne soit pas allé dans les salles de musculation, parce que la comparaison France-États-Unis, elle pose vraiment là, elle est remarquablement posée, et avec elle, la question des inégalités, des hiérarchies. Moi, j'ai appris, quand j'étais étudiant dans les cours de sociologie, qu'en France, aujourd'hui, il y avait deux principes qui organisaient les hiérarchies, qui étaient en gros l'argent et de plus en plus le capital culturel, c'est-à-dire le diplôme. Et voilà, il s'écrit en sociologie aujourd'hui beaucoup de choses sur ce qu'on peut appeler, pour faire vite, la féminisation du monde, c'est-à-dire la montée en puissance du capital culturel, etc. Or, ce que vous suggérez, alors plus dans l'exemple américain que dans l'exemple français, c'est que cette féminisation du monde, qui signifie aussi dévalorisation des ressources chevaleresques, pour parler comme Norbert Elias, c'est-à-dire dévalorisation de la force, de la virilité, etc., finalement, n'est pas systématique, et qu'il y a des micro-univers sociaux où ces valeurs demeurent, où ces ressources demeurent, et où même elles organisent des hiérarchies sociales. Alors...
Et votre question alors, Christian ?
Êtes-vous d'accord avec moi ?
Oui, tout à fait, c'est très bien dit, c'est exactement ce que j'ai essayé de montrer, ce que j'ai essayé de montrer sur la base évidemment d'observations empiriques. Il y a plusieurs travaux qui montrent justement que d'un point de vue historique, alors notamment au sein de la classe ouvrière et du coup qui sont devenues des classes populaires, les valeurs de virilité ont justement été dévalorisées du coup. À la fois sur le marché du travail, mais sur d'autres types de marchés, sur le marché amoureux, etc. Et du coup,
le macho, ça fonctionne.
Voilà, ça vaut plus grand chose quoi, sur différents types de marchés. Et du coup, les sports de combat et du coup la musculation aussi, enfin les salles de musculation et les sports de combat en fait demeurent. Presque à contre-temps, quoi, et demeure des bastions de fabrication de la masculinité populaire, du coup.
Ce qu'apporte votre travail, bon, ça on le sait, mais c'est aussi de dire que ce qui confère une position dominante, je veux dire, c'est pas West Side Story, c'est pas le fait d'être un cow-boy ou de savoir jouer du couteau, etc. C'est le fait de maîtriser des codes qui participent quand même d'une certaine régulation. C'est-à-dire, le modèle exemplaire, c'est pas le cow-boy, c'est le type qui est masculin, viril, mais aussi civilisé. Enfin, comment on pourrait le décrire ?
Tout à fait, exactement, c'est exactement ça. En fait, c'est une tension, pas moins un paradoxe, il me semble, c'est peu une tension que j'ai déjà observée, et du coup j'essaie d'en rendre compte dans le livre, c'est qu'il y a une tension, des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, dans les deux clubs, entre ce qu'on pourrait appeler une forme d'identification de la part de ces jeunes à une culture populaire, moi je mets des guillemets parce que bon. Cette culture populaire, elle est en tension avec une culture qu'on pourrait qualifier de plus légitime, mainstream, etc. Donc il y a cette tension qui est articulée par les entraîneurs. Donc à la fois dans ces salles de combat, de sport de combat et de force, on reproduit des valeurs un peu populaires, de virilité, etc. Et en même temps, on essaye à travers le travail notamment d'encadrement et de socialisation des entraîneurs.
De réguler.
Voilà, exactement, de réguler la violence, de l'encadrer, de faire en sorte que les boxeurs soient des bons citoyens. Ça, c'est plutôt du côté français. Alors justement, tout à l'heure, j'ai dit que les Américains, ils voulaient faire des leaders de leurs boxeurs. Les Français, c'est plutôt, on veut en faire des bons citoyens.
Des grands frères qui vont être à l'écoute des difficultés du moment.
Exactement, qui peuvent un peu réguler l'espace du quartier, l'apaiser, le pacifier.
Hakim, si on parle des sports virils, de cette masculinité, et j'ai envie de vous demander, mais où sont les femmes, où sont les filles dans cette histoire ?
Ah, c'est une excellente question. Alors en fait, dans la salle de musculation, en fait, alors il y avait plus de filles que dans les salles de sport de combat au moment où j'y étais. Mais bon, alors la chose du coup intéressante, c'est que dans ce ghetto new-yorkais, les filles qui venaient à la salle de musculation, la plupart du temps, pas systématiquement, mais quand même, dans ce que j'ai pu observer, la plupart du temps, elles s'aventuraient pas dans la salle de musculation seules, en fait. Elles avaient tendance à venir avec le petit copain, accompagné du petit copain ou d'un ami, etc. Alors, selon mes observations, à l'exception d'une femme, alors du coup, qui était, qu'on pourrait qualifier de masculine, mais il faut mettre aussi des guillemets, qui était très musclée, qui était, du coup, très sûre d'elle, alors qui faisait même des exercices, ça m'avait vraiment frappé. Donc, comment on appelle ça déjà, enfin, des tractions, voilà, des tractions, push-up. Qui était en mesure d'en faire un certain nombre, mais enfin, certains hommes de la salle n'étaient pas capables d'en faire. C'était assez impressionnant.
Donc, elle remontrait aussi par sa performance physique.
Exactement. Donc, des soulevés de terre, donc c'est soulever une grosse barre très lourde, enfin, l'arracher du sol quasiment. Et voilà, enfin, c'était assez impressionnant. Et du coup, voilà, c'est la seule femme qui était vraiment
à l'occuper l'espace
pleinement, elle est totalement acceptée. Alors des fois il y avait des regards interrogateurs sur elle, voilà, ceux qui la connaissaient pas trop, mais bon, mais elle avait son gros casque de musique et voilà, elle écoutait. La salle de boxe thaï, c'est enfin les salles de boxe en général, la salle de boxe anglaise, je n'ai vu aucune fille. La salle de boxe thaï, il y avait quelques filles. Alors c'est aussi lié à la politique culturelle et sportive de la municipalité communiste qui favorise la mixité des pratiques.
Là, on est en France.
Voilà, en région parisienne. Et du coup, ça a incité quand même à ce qu'il y ait un certain nombre de filles, mais pas beaucoup non plus. Hein, pas beaucoup.
Alors, elles ne sont pas forcément dans la salle, mais est-ce qu'elles sont dans les vestiaires ou à la sortie pour justement peut-être engager une carrière de séduction, de rencontre, de rivalité, mais cette fois sur un autre terrain qui serait celui de la joute amoureuse.
Oui, oui. Alors... j'ai observé des jeunes filles qui étaient là, qui circulaient dans l'espace, du coup autour du club, pas vraiment dans le club. Alors des fois si elles viennent parce qu'on peut assister aux entraînements. Il y a un public souvent. Alors c'est souvent justement les potes du quartier qui viennent un peu faire un
encourager.
Voilà, exactement. Et du coup ça stimule le boxeur qui veut peut-être en faire plus des fois. Mais oui, alors il y a souvent des échanges comme ça informels, alors avant ou après l'entraînement, avec entre jeunes. Du coup, c'est aussi une question de génération, quoi.
Alors, est-ce que ces filles, elles sont hyper féminisées comme les hommes sont hyper masculinisés?
Alors, pas tout à fait. Dans les quartiers populaires dans lesquels j'ai pu enquêter, en général, c'est un peu délicat pour une fille d'avoir une apparence trop féminine, ou ça pourrait un peu prêter à confusion, ça pourrait induire des relations sociales un peu tendues. En général, dans ce que j'ai pu observer, alors à la fois à l'intérieur du club et un peu en périphérie, si vous voulez, c'est que les relations, justement pour pas que les relations entre filles et garçons perturbent les interactions sportives à l'intérieur de la salle, on essaye plutôt de neutraliser ces questions. Donc les filles essayent plutôt, quand elles sont là, de s'habiller de manière... pas trop féminine, justement un legging justement long, un t-shirt un peu ample qui moule pas trop, etc. Ça c'est mon interprétation, j'ai vraiment eu l'impression...
Et ça c'est constaté à la fois en France et aux États-Unis. Vous avez vu les mêmes...
Aux États-Unis, du coup, dans la salle de boxe, il n'y a pas de filles, mais la salle de musculation, les peu de filles, en général, par exemple, elles mettaient un pull autour de leur taille pour cacher leur forme aussi. Alors sauf, dans mon livre, je l'ai appelée la Toya. Donc elle assumait complètement son corps. Elle avait un short cycliste très moulant, des hauts très moulants, elle avait des nattes très longues avec des couleurs dans les cheveux. Elle assumait complètement sa féminité, mais une féminité qui était quand même du coup un peu virile parce que elle était musclée, etc.
Eh bien, Hakim, si on va faire une pause dans cette émission passionnante consacrée au sport viril, on va se retrouver après un morceau choisi évidemment en référence avec le thème de notre émission. Il s'agit d'un morceau interprété par Sporto Cantes qui s'intitule Fight.
Everywhere I turn, my people fighting. People fighting. Everywhere I turn, my people fighting. Everywhere I turn, my people fighting. 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 People fighting.
Porto Contes Fight à l'instant dans Chercheurs en Ville. On poursuit cette émission consacrée à la pratique des sports virils en banlieue, en France mais aussi aux États-Unis. En première partie d'émission, nous abordions le fonctionnement des salles dans lesquelles se pratiquent ces sports, comme la boxe ou les exercices de musculation par exemple. Des sports pour s'imposer, se faire respecter, mais aussi mettre en place une sorte de hiérarchie au sein d'un groupe ou d'un club. On a aussi abordé la question de la place des femmes dans ces univers très masculins qui peuvent avoir pour objectif de favoriser une sorte de vivre ensemble. On va justement en parler dans la deuxième partie de cette émission avec l'implication et le soutien des institutions à ces pratiques sportives, des pratiques pour montrer que l'on existe mais aussi parfois pour résister à des terrains hostiles. Le docteur en sociologie Hakim Boualassi répond aux questions de Xavier de Montride et Christian Lebar. C'est tout de suite dans Chercheurs en Ville.
Hakim Boualassi, on vous retrouve pour poursuivre notre échange autour de la pratique de ces sports virils que vous avez observés de part et d'autre de l'Atlantique, à New York et en région parisienne. Il me venait une question un peu en rebond de notre échange précédent, juste avant la pause musicale, sur ce rapport fille-garçon et éventuellement le jeu de séduction qui pouvait découler de ces jeux de rôle. La question de l'orientation sexuelle. Est-ce que pour faire court, les icônes gays que l'on associe parfois à certaines pratiques de sport viril sont présentes? Est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce que vous avez observé?
Oui, alors je pense que c'est dans les quartiers dans lesquels j'ai enquêté, c'est à mon avis un sujet tabou. Mais en même temps, la question de la sexualité, elle me semble vraiment importante dans la construction de la masculinité. Alors, ça ne se réduit pas aux quartiers populaires, mais quand même, la construction de la masculinité passe en grande partie par la construction d'une hétérosexualité. Du coup, donc être un garçon, de manière, il me semble, dans la société française, en général, je ne sais pas si on peut dire en général, mais c'est en grande partie se construire en tant qu'hétérosexuel. Du coup, c'est aussi vrai pour les jeunes et quartiers populaires. Donc un jeune garçon habitant dans un quartier populaire, qu'il soit d'ailleurs issu d'une minorité ou pas, peu importe, s'il se construit en tant qu'homme viril masculin, il est, j'ai envie de dire, forcément rattaché à une norme d'hétérosexualité. Du coup, on peut dire que c'est présent quelque part. Pour se socialiser à l'intérieur d'un club de boxe thaï, par exemple, il faut, donc on est entre hommes, mais il faut, parce qu'on est entre hommes, il faut, à mon avis, c'est ce que essayent de mettre en place les boxeurs, les entraîneurs, il faut neutraliser cet aspect homosocial, on peut dire. Et donc, il y a des stratégies que j'ai observées qui permettent aux boxeurs, par exemple, de neutraliser ce rapprochement entre hommes. Voilà, bon, je sais pas, alors c'est un peu délicat de donner des détails, mais par exemple, ils font des blagues sur quand ils se retrouvent ensemble sous la douche, par exemple. Ils font des blagues, ici c'est Cap d'Agde, alors les gars, c'est Cap d'Agde, oui, donc la plage nudiste, voilà. C'est vraiment une manière, à mon avis,
désamorce. Il y a des blagues homophobes, par exemple.
C'est pas vraiment homophobe, mais c'est plus l'idée d'associer les boxeurs.
On en parle et on rit très fort pour éviter d'y être confronté.
Voilà, pour en rigoler, quoi. C'est une manière de désamorcer le fait qu'on se retrouve entre hommes. C'est quelque chose de quasiment, je sais pas, à l'école, les jeunes, ils sont dans des écoles mixtes. Donc c'est un lieu quand même où on est regroupé quasiment exclusivement entre hommes, et c'est une manière de désamorcer cette dimension là, quoi.
Et alors sur une autre question entre guillemets tabou, sur le rapport à la religion, à l'islam, beaucoup de jeunes de banlieue qui sont d'origine musulmane, est-ce que vous avez des hypothèses sur l'articulation entre ces deux identités, leur compatibilité, la façon dont chacune de ces deux identités travaille l'autre, etc.
Oui. Alors c'est quelque chose, j'ai essayé de prêter attention à cette dimension dans mon enquête, parce que beaucoup des jeunes sportifs dans les quartiers dans lesquels j'ai enquêté sont, je mets des guillemets, d'origine ou de culture musulmane, on pourrait dire, plutôt, parce que c'est pas une origine.
C'est pas une origine.
Oui, tout à fait. Donc de culture,
c'est une confession.
De culture, oui, voilà.
Une culture.
Alors, j'ai pu observer certains qui faisaient référence à l'islam, par rapport à un régime alimentaire ou le fait d'aller à la mosquée, par exemple. Mais même en entretien, par exemple, j'ai essayé de voir s'il y avait un lien, par exemple, entre pratiques religieuses et pratiques sportives. Mais dans tous les entretiens que j'ai faits, il y a systématiquement, les boxeurs n'ont pas établi de lien. On me disait, non, ça n'a rien à voir, moi je fais ma pratique sportive comme tout le monde. Mon éventuelle pratique religieuse n'a aucune influence sur ma pratique sportive.
Quoi. Et vous l'interprétez comment ? C'est une forme de déni ou c'est vraiment la volonté de dissocier totalement les deux univers ?
Je ne pense pas que ça soit du déni, je pense vraiment que pour eux, leur éventuelle pratique ou croyance religieuse n'a vraiment aucun impact sur un sport de combat. Voilà. Je sais pas, on pourrait lister les interdits.
Oui, que dit l'islam là-dessus d'ailleurs ? Il n'y a pas d'interdit particulier.
Bon, je ne suis pas spécialiste de la religion ni de l'islam, mais bon, à ma connaissance, il n'y a aucun interdit lié à la pratique d'un sport, même
y compris ce type-là.
De combat. Oui. Donc voilà. Ce que je peux dire en tant que sociologue, c'est que d'un point de vue empirique, l'islam n'a vraiment eu aucun aspect structurant, déterminant. Dans les sports de combat que j'ai observé.
La mairie de Toulouse, il subventionne certaines associations pour mettre des médiateurs de quartier. Mais les médiateurs de quartier qu'ils mettent, ils ne mettent pas des médiateurs, des grands frères, comme on dit, du quartier. Ils mettent des gens de l'extérieur du quartier, que les jeunes ne connaissent pas. Ils font un tour, une heure le matin, et après ils rentrent chez eux. Alors que s'ils mettaient un grand frère du quartier qui est le matin, qui est l'après-midi, que lui aussi il a ses enfants à l'école, il est devant l'école, sécurité, qui est au centre commercial, et qui est même la nuit, quand il entend du bruit, il sort, le grand frère. Vous comprenez ? Le médiateur, non, il n'habite pas ici. Il y a une bagarre, le grand frère, il va au milieu, il sépare. Le policier ne le fera pas. Le policier, il voit que ça ne va pas, il gaze. S'il fait un flashball, il fait un flashball. S'il fait ça, il fait ça. C'est tout. Je pense que s'il mettrait des grands frères, il y aurait un peu plus de respect déjà. Et un peu moins de subventions.
Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir avec vous quelques instants, Hakim Ouellassi, c'est la dimension un peu politique et sociale à l'échelle d'un quartier. On a beaucoup parlé tout à l'heure de fabrication urbaine, de fabrication de la ville. Comment aujourd'hui, peut-être plus qu'hier encore, les animateurs de quartier s'emparent de ces pratiques-là pour tenter de canaliser ce qui pourrait apparaître aux yeux de l'extérieur comme une forme de violence ?
Oui. Alors, ça c'est une question très complexe en fait. C'est... Alors, parce que déjà, il y a une idée un peu de sens commun, un peu voilà, qui circule, qui est selon laquelle voilà, le sport permettrait d'intégrer des populations un peu marginalisées. Alors ça, c'est, de mon point de vue, et ça, il me semble que ça n'a pas été fait dans la littérature scientifique sur le sujet, c'est quasiment impossible à démontrer, si vous voulez, en fait, d'un point de vue empirique. Comment pourrait-on démontrer le fait que le sport... Alors, notamment... Alors, je précise le fait que le sport, par exemple, empêche des jeunes de devenir délinquants ou les transforme en non-délinquants, si vous voulez. Donc il y a une difficulté là, du coup, empirique.
Alors vous donniez quand même tout à l'heure un argument en disant que certains vont professionnaliser capital lié à la pratique sportive en devenant vigile, en devenant...
Tout à fait. Alors moi j'ai tendance à croire que ça joue. Du coup, il y a beaucoup quand même de facteurs, vous avez tout à fait raison, d'éléments qui font penser que ça va dans ce sens-là, tout à fait. Montrer de manière rigoureuse, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, alors du coup, il y a cette idée voilà, selon laquelle le sport intègre ou même détourne de la délinquance, etc. Et il y a vraiment des faisceaux voilà, qui tentent à montrer que c'est fort possible. Moi, dans ce que j'ai observé, les sports sur lesquels j'ai décidé d'enquêter, en fait, et dans les quartiers dans lesquels j'ai enquêté, les municipalités, en fait, alors se saisissent de cette idée, justement. Et donc, pour ces municipalités, notamment en France, ça c'est quelque chose de très fort en France. Le sport est un outil qui permet alors d'intégrer voilà les jeunes des cités qui ont tendance à être attirés par le pôle déviant ou le pôle délinquant du quartier et du coup, à travers la socialisation sportive, grâce au travail important des éducateurs sportifs, des entraîneurs, à faire de ces jeunes des jeunes un peu plus conformes des normes un peu plus légétimes, quoi, et puis à les écarter du coup de formes de socialisation délinquantes, déviantes, etc.
Il y a un argument tout bête qui consiste à dire le sport fonctionne d'abord comme une occupation, indépendamment des valeurs, etc. Oui. Alors, ça renvoie à un indicateur assez basique, qui est le temps passé dans ces espaces. Et en particulier, on a évidemment en tête l'idée que ça concerne des populations qui ne sont pas occupées à l'école et qui ne sont pas occupées au travail. Alors, qu'en est-il de ce point de vue-là ? Est-ce que on a aussi en tête le modèle du film américain dans lequel on va à la salle de boxe après le travail, enfin des choses comme ça.
Oui, alors moi dans ce que j'ai voulu observer en fait, alors la salle de boxe américaine par exemple, il y a quand même pas mal de jeunes qui sont sortis de l'école en fait, qui ont arrêté l'école et qui aspirent justement à devenir boxeurs professionnels. Donc c'était y a une différence avec la salle de boxe, par exemple, où il y a encore beaucoup de jeunes qui sont encore lycéens, même si bon.
On n'a pas parlé des tranches d'âge, c'est vrai que c'est intéressant de nous donner un petit peu à voir. Ça commence à quel âge et ça va jusqu'à quel âge?
Alors, ces clubs-là, les clubs de boxe, les deux, des deux côtés de l'Atlantique, grosso modo, c'est entre 15 et 35 ans. Donc, c'est une fourchette
c'est assez
large, mais c'est ça. La salle de musculation, c'est un peu plus âgé, c'est autour de. Enfin, ça commence. Disons à partir de 18-20 ans, ça peut aller jusqu'à 40, voire plus. Même, j'ai même vu des adultes de peut-être, je sais pas, 55-60 ans. Quoi.
Donc c'est qui entretiennent leur
corps. Des adultes, voilà, exactement. Du coup, les boxeurs français étaient beaucoup plus présents à l'école. Quoi. Donc il y a un niveau de diplôme un peu supérieur. Mais alors, du coup, c'est aussi lié au fait qu'ils ne voient pas en la boxe thaï un métier possible. Parce que du coup, ce n'est pas rémunérateur en France, pas encore. Ce n'est pas une pratique très reconnue. Et alors que voilà, à l'inverse, les boxeurs américains aspirent vraiment à devenir des professionnels, à gagner beaucoup d'argent. C'est vraiment une différence.
Alors, Akil Walassi, puisque nous parlons à l'instant même de cette dimension économique, j'ai envie de vous demander combien ça coûte. Est-ce que ce sont des activités onéreuses et comment sont-elles financées? Est-ce qu'il y a des aides pour permettre au plus grand nombre d'aller justement pousser la porte de la salle de musculation ou de s'inscrire au club de boxe? Vous avez observé aussi ces pratiques-là?
Oui, alors ça, c'est une question très importante parce qu'en fait elle détermine justement aussi
C'est le ticket d'entrée d'une certaine manière.
Donc je parlais des dispositions là, donc le fait d'avoir des très présent en soi des valeurs de virilité, etc. Mais il y a la question évidemment économique, et donc c'était aussi un choix de départ, c'était d'étudier des pratiques qui étaient accessibles au plus grand nombre, peu appareillées par exemple, on n'a pas besoin d'une raquette, on n'a pas besoin d'une épée, d'instruments. Et du coup La musculation, c'est très peu cher parce que c'est dans une sorte de club municipal. C'est dans le livre, je crois que c'est $75 à l'année. Donc ça doit faire maintenant 70 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est pas
à l'année.
Voilà, à l'année. Manhattan, ça peut aller jusqu'à l'équivalent de, je sais pas, il y a des salles peut-être à, que je dise pas de bêtises, peut-être 1000 euros, voire plus. Quoi.
Bon,
c'est vraiment très très accessible. Le club de boxe thaï, au moment de l'enquête, c'est 120 euros l'année. Avec des possibilités de tickets de la caisse d'allocation familiale pour les familles en difficulté, donc c'est pas très cher.
Et est-ce que vous avez observé justement des incitations, alors là je suis en France en posant cette question, de la part des municipalités, des structures d'accompagnement de cette jeunesse pour les inciter à y aller? Je fais la référence à ce qui existe ici à Rennes avec le dispositif qui s'appelle la carte sortir et qui est un dispositif qui permet sous critère de ressources justement d'avoir un accès à tarifs très intéressants et très préférentiels à une multitude d'activités culturelle, mais aussi sportive.
Oui, alors, au moment de l'enquête, il n'y a pas vraiment un équivalent, c'est plutôt voilà, des... Alors, aux États-Unis, c'est la cotisation en elle-même qui est pas chère, mais il n'y a pas vraiment de carte... Enfin, il n'y a pas de politique, si vous voulez, municipale, comme il peut y avoir en France, qui favoriserait voilà, l'investissement de jeunes quartiers populaires dans des pratiques culturelles, sportives. C'est vraiment différent. En France, donc voilà, c'est le quartier où j'ai enquêté, c'est une ville communiste. Il y a vraiment la volonté d'inciter les jeunes.
Il y a une longue tradition donc, de cette municipalité.
Voilà, exactement, d'encadrer la jeunesse, de les inciter à pratiquer des sports, d'autres pratiques culturelles, etc. Donc voilà, il y a des bons CAF qui permettent d'accéder à...
Et d'encourager la pratique.
Voilà, tout à fait. Et puis le club met en place aussi des organisations, des fêtes annuelles qui permettent de ramener des troupes pour la rentrée suivante.
Alors pour prolonger sur la question de la citoyenneté, vous avez utilisé le mot au début, ou de l'action publique, est-ce qu'on a le sentiment que dans le cas français en particulier, est-ce qu'il y a une vraie politique municipale derrière, avec des subventions fortes aux associations, aux clubs, et avec une représentation très construite du caractère un peu décisif de ces lieux, comme des endroits où on peut faire de la citoyenneté, par exemple, faire de la régulation de la violence, faire...
Éducation à la citoyenneté aussi peut-être, tout simplement.
Oui, tout à fait. Alors justement, ce qui était aussi intéressant dans la comparaison, c'est qu'aux États-Unis, ça tient à l'histoire des deux sociétés qui sont différentes, mais l'État américain, de manière générale, est beaucoup moins intrusif sur certains aspects. Et donc là, c'est un aspect précis, voilà, le sport, les pratiques culturelles peut-être, ou d'un point de vue local, l'État n'atteint pas vraiment ces quartiers, en fait, des quartiers donc très ségrégés, etc. Donc il n'y avait pas vraiment une politique volontariste selon laquelle voilà, il faudrait inciter les jeunes, sinon, comme j'ai dit, par le biais d'un accès peu cher à la pratique en elle-même. Alors il y a quand même cette notion de cette idée, c'est une politique qui donne lieu à des pratiques, c'est empowerment. Donc on pourrait ça traduire comme le fait de donner du pouvoir à la base, quoi, aux gens d'en bas, entre guillemets. Donc je pense qu'il y a quand même cette idée qu'il faut donner du pouvoir aux gens d'en bas, des quartiers populaires, etc. Et alors moi, c'est comme ça que je l'ai analysé, c'est que les éducateurs de boxe dans la salle de musculation, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire, finalement. Et donc il y a quand même, c'est assez paradoxal, il y a à la fois cette idée de donner du pouvoir, il y a quand même un laisser-faire d'un point de vue de l'État local, du gouvernement local américain. Donc c'est beaucoup moins intrusif qu'en France. Alors je passe de l'autre côté de l'Atlantique, quoi, en France. Alors là, il y a vraiment une politique assez claire, quoi, assez volontariste. Bah, du coup, la municipalité dans le quartier où j'ai enquêté, qui incite les jeunes, elle veut vraiment que les jeunes s'intègrent. Alors, il faudrait mettre des guillemets à tout ça, mais deviennent des bons citoyens, intègrent les valeurs de la République, égalité, etc. Du coup, il y a ces pratiques sont incitées par des subventions. Donc, le club doit présenter un projet, et c'est seulement si le projet est jugé viable, intéressant, etc., que le club obtient une subvention. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'année où j'ai enquêté, le club n'avait pas reçu de subvention parce qu'il n'avait pas pu rédiger de projet. Alors ça renvoie aux compétences des entraîneurs qui n'ont pas forcément une longue scolarité, etc. Donc ça renvoie aussi à des difficultés qu'on peut retrouver dans des quartiers populaires.
Quand tu fais, toi tu t'entraînes ici deux fois, tac, tu viens, tu fais tes petits trucs avec le ballon contre le mur, et tu me dis, ouais, c'est un nouvel entraînement, et que lui il est le matin, il va au footing, après, il progresse plus vite. C'est comme ceux qui viennent me demander à la salle, Sam, à ton avis, pour que je puisse être bien, il me faut combien de temps? Je dis non, c'est pas une question de temps ou d'années, ça dépend de votre investissement. Si tu viens une fois par semaine, il va te falloir des années. Si l'autre il vient quatre fois par semaine, il va aller plus vite que toi. Et s'il s'entraîne deux fois par jour, il va aller encore deux fois plus vite que toi. Donc, il n'y a pas de mystère. Il n'y a que le travail qui paye. Ça ne s'achète pas en supermarché, ça.
Hakim, voilà, si on arrive presque au terme de cette émission, j'aimerais revenir sur le titre que vous avez donné à votre ouvrage paru, je le rappelle, en janvier dernier au Pass Universitaire de Rennes. Vous l'avez intitulé tout simplement, c'est le titre, « Se faire respecter ». Derrière cette affirmation, qu'avez-vous voulu dire ?
Oui, alors, se faire respecter, en fait, bon, c'était une manière de dire que à travers la pratique de sport dit viril, donc de qui engage des valeurs de virilité, etc., les jeunes des quartiers populaires, à la fois aux États-Unis et en France, essayent, parce qu'ils sont dans des positions, alors plus ou moins, c'est pas évidemment homogène, mais plus ou moins des positions dominées dans l'espace social, on pourrait dire. Ils n'ont pas beaucoup de ressources économiques, du coup même culturelles. Alors culturelles, la culture légitime, hein, je mets aussi des guillemets. Les sports de combat et de force, c'est une manière de se valoriser ou de se revaloriser, de se faire respecter de ses copains, de ses potes du quartier, peut-être aussi de certains adultes du quartier. Et aussi, au regard des autres, de la société. Alors, la société, c'est
vaste.
Elle est à la fois loin et c'est très vaste. Mais du coup, il y a quand même cette idée, même si c'est un peu abstrait, cette idée qu'en développant... Comment dire, en acquérant des compétences liées à des pratiques sportives qui ne sont pas forcément reconnues, on peut gagner en respectabilité vis-à-vis du groupe au sein du quartier, puis de la société en général, parce que voilà, les entraîneurs encouragent les jeunes à pas sombrer dans la délinquance, à respecter les autres, à être polis, à respecter l'arbitre, etc.
Et est-ce que plus prosaïquement, il n'y a pas non plus peut-être chez ces jeunes pratiquants de ces sports-là l'obtention d'une assurance, j'allais dire, tout risque, ou en tout cas de se dire, au moins en pratiquant ces sports-là, en même temps, je vais savoir me défendre et je vais tout simplement pouvoir exister physiquement dans un espace qui peut être potentiellement dangereux pour moi.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'était un peu plus fort. C'est vrai des deux côtés de l'Atlantique, encore une fois, mais ça m'a semblé beaucoup plus fort aux États-Unis parce que c'est voilà, il y a un taux de violence qui est vraiment supérieur au quartier français. Il y a les armes à feu, etc. Alors notamment les hommes qui faisaient la musculation m'ont vraiment dit ça en fait en entretien ou même quand je parlais de manière informelle avec eux, que voilà, le fait d'avoir une musculature développée dans le quartier en fait c'était un moyen dissuasion ou même des fois de punition quoi s'il y avait lieu quoi. Donc alors il me semble que à la fois le fait de développer un physique intéressant et des compétences de sport de combat et à la fois les normes alors du coup qui sont à la fois sportives et morales qui sont acquises par le biais des entraîneurs, ça donne une certaine confiance en soi qui permet de se présenter un emploi d'avoir plus d'assurance dans le quartier face aux professeurs, etc. C'est vraiment quelque chose que j'ai écouté en entretien puis que j'ai observé du coup.
Alors une dernière question de Christian Lebart.
Oui, une question qui est peut-être complètement anecdotique mais j'en suis pas sûr. Pourquoi pas la boxe tout court? Comment expliquer le glissement? Vous auriez fait l'enquête il y a 50 ans, on serait allé sur un sport qui était la boxe. Et pourquoi on passe sur des formes un peu
alors si je rajoute à mon tour, pourquoi pas le catch?
Oui, alors il y a une très belle étude qui a été faite sur le catch. Alors là, c'est une bonne question aussi parce qu'en fait, il y a quelque chose d'asymétrique évidemment dans les trois sports que j'ai comparés. Alors en fait, c'est moi, mon approche était moins de se focaliser sur les pratiques en elles-mêmes, donc vraiment prendre des pratiques strictement équivalentes, que focaliser sur les valeurs auxquelles elle renvoyait. Donc pour des jeunes de quartiers populaires en France, la boxe thaï, ça renvoie, c'est un sport qui est très populaire au sein des quartiers populaires. Les garçons adorent. Aux États-Unis, alors j'ai cherché justement, je savais que c'était pas trop le cas, c'était plutôt la boxe anglaise du coup que les poings. Boxe thaï, c'est art martial quoi, typique, poing, genou, pied. Les clubs de boxe thaï étaient plutôt pratiqués par les classes moyennes, voire les classes supérieures. Donc c'était plutôt dans des espaces bourgeois, type Manhattan, etc. Alors du coup, pour moi, vraiment le point de comparaison intéressant, c'était entre club de boxe anglaise et club de boxe thaï, parce que ça renvoyait à des pratiques qui étaient valorisées par des groupes populaire, minoritaire, si vous voulez, qui était un peu équivalent. C'était plus ça.
Merci beaucoup, Hakim. Voilà, si je rappelle le titre de votre ouvrage, Se faire respecter, ethnographie des sports virils dans des quartiers populaires en France et aux États-Unis, paru aux Presses universitaires de Rennes en janvier. Peut-être aussi rappeler que vous avez été enseignant à l'université de Brest il y a quelques années. Et ma dernière question, très très vite, vous travaillez sur quoi en ce moment ?
À peu près sur la même question, puis j'élargis un peu à tout ce qui relève du domaine des pratiques culturelles, mais là, du coup, entendu au sens un peu plus large.
Eh bien, vous reviendrez derrière ce micro pour nous en parler dans quelques temps. Merci encore, très bonne suite de programme sur Canal B.